Bonjour à tous. Je dirige un institut de transition énergétique, SuperGrid Institute, qui est spécialisé du courant continu et je vais essayer de vous faire toucher du doigt pendant cette conférence les défis auxquels sont confrontés les réseaux électriques d'aujourd'hui et surtout les réseaux électriques de demain. Et donc pour ça, je vais commencer par, bien que vous soyez plutôt a priori un public averti, vous donner quelques considérations en ce qui concerne l'impact sur les réseaux de la transition énergétique et la situation en France, la situation en Europe, avant de rentrer un petit peu plus dans le détail de comment est-ce que ces réseaux, et en particulier le réseau de transport, doit muter, doit évoluer pour accompagner ces différents changements, avec ensuite un petit focus sur les mécanismes qu'il y a derrière, qui le sous-tendent, et puis l'impact et la coopération entre les réseaux de transport et les réseaux de distribution. Et donc, tout d'abord, quelque chose qui pourra vous paraître évident, mais on va de plus en plus développer des sources ou intégrer des sources d'énergie renouvelable. Et en fait, la première considération, c'est que plus de sources d'énergie renouvelable, ça veut aussi dire plus de réseaux et plus de transport d'électrons. L'électricité que vous consommez aujourd'hui, elle est produite en moyenne entre 50 et 100 km de chez vous. Demain, elle sera produite entre 500 et 1000 km de chez vous en moyenne. Et en fait, c'est assez simple à comprendre quand on prend un tout petit peu de recul. Les sources conventionnelles d'électricité, elles ont été construites à proximité des lieux de consommation. Et quand on regarde les gisements massifs d'énergie renouvelable, ils sont par essence à des endroits où il n'y a pas de consommation et où en général il n'y a pas d'habitation, comme l'éolien offshore. Donc la distance entre les sources et les consommateurs font que naturellement on a besoin de plus d'électrons à transporter. Le deuxième phénomène, c'est l'intermittence, parce que le photovoltaïque, il n'y en a pas la nuit, donc forcément ça veut dire que la production, elle est intermittente journalièrement. Elle est aussi intermittente en fonction de la météo. Et vous voyez bien sur cette carte, si je joue à Dame Météo, j'essaie avec mon petit pointeur, voilà, ça marche, voilà, que quand il y a une grosse dépression sur l'Europe, c'est plutôt d'ici que viendra l'électricité avec de l'éolien et de l'éolien offshore. Et puis c'est plutôt au sud de l'Europe et potentiellement, pourquoi pas, du bassin méditerranéen que viendra l'électricité quand il y aura des anticyclones et beaucoup de soleil. Donc une intersaisonnalité, donc des problématiques qui sont liées à la météo, et puis des problématiques qui sont liées aussi aux saisonnalités, puisqu'il y a des grosses variations en fonction des endroits où on est, des grosses variations de consommation qui ne sont pas identiques entre l'hiver et l'été. Donc plus de sources de renouvelables égale plus de réseaux, égale des impacts sur le réseau, en termes de capacité de transport nécessaire, bien sûr, en termes de gestion de l'adéquation entre la production et la demande, et en termes, bien sûr, de gestion de la stabilité de ce réseau. Et alors, en France, quelle est cette situation ? Donc, vous voyez sur le transparent des graphes qui sont issus du rapport de RTE Futur énergétique 2050, qui présente la consommation d'aujourd'hui, à peu près 1600 TWh, dont un quart, 25%, sont de l'électricité, donc à peu près 400 TWh. Et la stratégie nationale bas carbone prévoit que ces 1600 TWh vont devenir, en 2050, à peu près 930 TWh, mais avec une augmentation significative de la part d'électricité, qui va passer de 25% à 55%, et donc avec une croissance de l'électricité de 400 à 645 TWh dans ce scénario-là, qui est le scénario de la stratégie nationale bas carbone. Ça veut dire une augmentation significative de l'électricité entre maintenant et 2050 d'à peu près 60%. Et cette photo, cette illustration, qui est aussi tirée du même rapport de RTE, illustre la grosse différence entre un soir d'hiver où on va avoir des flux d'électricité qui vont traverser le pays avec des importations qui vont venir du nord et des flux qui vont aller vers les pays méditerranéens par rapport à un après-midi d'été où ça va être le contraire. Et donc avec des flux d'électricité qui vont être assez différencié en termes de saison, de matin, d'après-midi. Voilà. Donc ils vont avoir bien sûr un impact sur le réseau, avec un impact et des enjeux qui sont aux frontières en termes d'échanges avec les pays voisins. Et donc vous voyez peut-être pas le détail, donc des petits liens en bleu sont les endroits où augmentent ces capacités de transport, mais vous voyez peut-être en revanche les chiffres en gros. Donc de 2020, si j'arrive à jouer avec ça, voilà, de 2020 à 2030, il y a plus 11 gigawatts de prévu. De 2030 à 2040, plus 6 gigawatts, pardon, et plus 10 gigawatts de capacité d'échange de 2040 à 2050. Donc une capacité d'échange de presque 30 gigawatts complémentaires entre maintenant et 2050, entre la France et les pays voisins en termes d'interconnexion. Donc des vrais enjeux aux frontières en termes d'échange d'électricité. Mais qui dit des enjeux aux frontières, dit aussi des enjeux pour traverser ce territoire national, pour acheminer cette électricité. Et merci RTE qui me fournit beaucoup d'illustrations. Encore une illustration qui est issue de ce même rapport et qui présente ici en 2035, les petites poches en bleu et les traits en jaune sont les endroits où il commence déjà à y avoir des congestions sur le réseau. Congestions sur le réseau qui sont encore plus significatives qu'on voit sur ces cartes ici. Donc chaque fois qu'on est en rouge ou en noir foncé, c'est des endroits où le réseau de transport actuel et les augmentations qui sont déjà prévues en termes de réseau ne suffisent pas à répondre à la congestion qu'il y a dans le réseau de transport. Donc des enjeux d'augmentation de la capacité du réseau de transport à l'acheminer. Et puis également des enjeux sur le réseau de distribution, puisque quand on parle de déployer du photovoltaïque, eh ben on parle aussi de déployer du photovoltaïque sur des fermes en agrivoltaïsme, sur des hangars, sur des maisons, etc., avec beaucoup d'intégration de production et beaucoup plus d'intégration de production distribuée qu'aujourd'hui sur les réseaux de distribution. Donc un réseau de distribution qui a un rôle un peu différent, qui ne fait plus que de la distribution, mais de la distribution, et puis qui intègre aussi de la génération. Ou en tout cas beaucoup plus qu'aujourd'hui. Voilà en quelques mots, en quelques coups de pinceau, la situation en France. Et maintenant, quid de la situation en Europe? Vous allez voir que la situation en Europe, elle est à peu près similaire, dans des ordres de grandeur qui sont à peu près les mêmes, puisque Fit for 55, c'est 55% de réduction de CO2 en 2030 et neutre en 2050. Et donc, je vais vous présenter très brièvement les impacts de deux scénarios, qui sont des scénarios qui ont été étudiés par l'ENSOE. L'ENSOE, c'est l'association des transporteurs, des opérateurs de réseaux de transport européens, qui regroupe les 43, 45, enfin l'ensemble des transporteurs, des gestionnaires de réseaux de transport européens, donc l'équivalent de notre RTE national, hein, qui gère le réseau de transport, sur deux scénarios différenciés, un qu'ils appellent Distributed Energy et un qu'ils appellent Global Ambition, qui sont des scénarios qui sont tous les deux compatibles avec l'horizon de neutralité carbone en 2050, mais qui sont différenciés dans le sens que celui qui s'appelle Distributed Energy, c'est un scénario qui repose sur une sobriété un petit peu plus importante, sur beaucoup de sources qui sont distribuées et sur le plus possible de souveraineté et d'autonomie européenne en termes d'énergie, alors que celui qui s'appelle Global Ambition, lui, il est plus focalisé sur une augmentation de la part économique avec un petit peu plus d'importation d'électricité et du recours avec un petit peu moins de sources distribuées, mais plus de sources massives qui ne sont pas distribuées. Et donc, je ne vais pas rentrer dans les déclinaisons de ces scénarios, mais c'est intéressant de voir que sur ces deux scénarios-là, qui sont tous les deux compatibles, et donc qui derrière représentent des choix de société, un peu comme les scénarios de l'ADEME. Si vous avez la curiosité d'aller voir sur le site de l'ADEME, ils ont fait le même travail pour la France. Donc, des scénarios différents qui conduisent à la même neutralité carbone. Et comment ça se traduit en termes de consommation énergétique? Ben, ça se traduit avec, vous le voyez sur la colonne de gauche, ça se traduit avec à peu près 13 000 TWh, dont 2 500 TWh aujourd'hui sont de sources électriques. Et donc dans le distributed energy, une consommation énergétique qui est un petit peu inférieure, hein, qui est suffisamment, pas mal inférieure, donc à un petit peu moins de 9 000 TWh, donc 4 000 TWh sont de l'électricité. Et dans Global Ambition, on est plutôt, donc en 2050, en Global Ambition, ici, on est plutôt à 9500 et avec 3500 TWh. Ça veut dire qu'en Europe, on passe de 2500 TWh à 4000 ou 2500 TWh à 3500, selon les scénarios qui sont les scénarios envisagés aujourd'hui par l'Europe. Ben, ça veut dire que c'est assez similaire à la France. Ça veut dire qu'en Europe, on a une croissance d'électricité dans ces deux scénarios différenciés, de plus 40% d'électricité ou de plus 60% d'électricité. Donc dans tous les cas, dans un contexte de réduction de la consommation énergétique globale, une électrification qui permet de sortir des électricités fossiles avec un ordre de grandeur que vous pouvez avoir en tête d'à peu près 50%. Voilà. Ça donne l'ordre de grandeur. Et ces besoins, en fait, ils induisent de la même façon que ce qui a été présenté en France, ils induisent des besoins de renforcement du réseau européen. Ces besoins, ils ont été démontrés dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle EIY 2050. Et donc ce projet européen qui rassemblait un certain nombre d'acteurs, notamment principalement des opérateurs de réseau, ce projet considérait 5 scénarios différenciés de consommation et de production d'électricité. Et sur ces 5 scénarios différenciés, il regardait quels étaient les besoins de renforcement du réseau. Et pour ces besoins de renforcement du réseau, sur cette carte qui est affichée, quand des besoins étaient communs à au moins 2 scénarios, c'était affiché en jaune. Et puis quand c'était commun à tous les scénarios, c'était affiché en rouge foncé. Et donc la palette de couleurs des traits que vous voyez de loin, que vous distinguez vaguement de loin, de là où vous êtes en jaune ou en rouge, ben plus c'est rouge, plus c'est de toutes les façons quelque chose qu'il est nécessaire de planifier au-delà de ce qui était déjà prévu dans ce qui s'appelle le 10-year development plan de l'Europe, qui sont les prévisions à 10 ans de ce qu'on imagine faire comme renforcement des réseaux à 10 ans. Donc ce projet date des données de 2013, donc il y a maintenant une petite dizaine d'années, puisqu'on est en 2023, donc les résultats datent de 2018 à peu près. Donc une démonstration d'un besoin, dans tous les cas, de renforcement des réseaux en Europe, et qui se concrétise aujourd'hui. Donc cette photo, c'est le 10-year development plan, donc on peut trouver aussi en libre accès sur le site de l'ENSOE, et donc qui démontre tous les traits en bleu, en rouge, en orange sont les traits qui correspondent à l'ensemble des projets qui sont soit en cours d'investigation par l'Union européenne ou qui sont déjà attribués par l'Union européenne et donc planifiés, ou ceux qui sont en cours de permitting, donc de demande de permis pour que ça puisse passer dans une phase de réalisation concrète. Et donc l'ensemble de ces traits, de ces points et de ces que vous voyez sur la carte, sont des renforcements du réseau qui sont déjà planifiés dans les 10 ans au niveau européen. Donc un vrai enjeu de renforcement de ce réseau de transport. Alors maintenant, je vais... Donc ça, c'est le contexte global, donc renforcement du réseau de transport. Et pour renforcer ce réseau de transport, il y a plusieurs options. La première option, aujourd'hui, on est en courant alternatif, on a des lignes tension en courant alternatif. La première option, c'est de continuer à utiliser le courant alternatif. C'est pas très cher en termes d'investissement, c'est ce qu'il y a de moins cher en termes d'investissement. En revanche, il y a quelques difficultés et quelques limitations. La première limitation, c'est une limitation qui est d'ordre social et sociétal. C'est-à-dire qu'il est extrêmement difficile aujourd'hui d'obtenir des permis pour faire passer des nouvelles lignes aériennes, parce que tout simplement, personne n'en veut dans son jardin. Et puis, il y a beaucoup d'endroits où on est déjà saturé, où on a déjà pas mal de lignes aériennes. Donc ça, c'est une première limitation. La deuxième limitation, c'est que le courant alternatif, il a un super avantage pour faire un réseau, c'est que les flux, ils vont s'équilibrer tout seuls, et le courant, il va aller là où c'est le plus facile. Donc ça, c'est un super avantage pour créer un réseau. Par contre, l'inconvénient, c'est que quand on veut piloter des réseaux et qu'on a des problématiques de gestion de flux, on n'arrive pas à gérer facilement les flux. Et donc, il y a des vraies limitations techniques, et en particulier quand on a des quantités massives d'électricité à transporter sur des grandes distances. La deuxième option, c'est une option qui est... Donc, la première option est une option qui, à certains endroits, est bien sûr utilisée. La deuxième option est aussi une option qui est utilisée. C'est le fait d'utiliser des liaisons à courant continu haute tension qui sont des liaisons qu'on appelle point à point. C'est d'un point à un autre point. Donc ces liaisons, elles sont assez efficaces pour connecter des sources différentes, éloignées, et pour transmettre des grandes quantités d'électricité. Elles ont assez peu de pertes. Elles sont plus chères à l'investissement. Et comme elles permettent de transporter facilement des grandes quantités d'électricité par câble, ben, il y a beaucoup moins de freins sociaux à l'implémentation. La difficulté de ces solutions, et c'est ce que je vous illustrerai plus tard, c'est que ces solutions, en termes, il y a également des limitations techniques, et en particulier en termes d'évolutivité. Et vous pouvez imaginer, on peut imaginer que le réseau AC, c'est un peu comme le réseau des nationales aujourd'hui, les nationales routières. Et puis, vous voulez renforcer le réseau, vous allez rajouter des nationales, transformer des départementales en nationales. Et à un moment ou l'autre, à un moment ou un autre, vous allez dire « Non, mais j'ai besoin de transporter plus de voitures ou d'avoir plus de trafic, je vais mettre un tronçon d'autoroute. » Ce lien en DC, ce lien en courant continu haute tension, c'est un tunnel d'autoroute. Il y a un péage pour rentrer sur l'autoroute, ça correspond à l'investissement pour passer du AC en DC, et vous faites la distance que vous voulez sur ce lien DC sans perte. La distance que vous voulez à la vitesse que vous voulez sur l'autoroute. Et puis vous avez à nouveau, pour sortir, un péage. Et donc, cette solution-là, c'est de rajouter à plein d'endroits plein de petits tronçons d'autoroute. Et la solution suivante, c'est ce qu'on appelle les réseaux HVDC, comme High Voltage Direct Current, donc les réseaux à courant continu haute tension. Et cette solution, c'est de dire, ben, c'est bien gentil, les petits tronçons d'autoroute, mais c'est quand même plus facile si sur un autoroute, il y a des embranchements, et puis on peut décider de sortir un peu où on veut, de prendre la sortie qu'on veut, de prendre à droite, de prendre à gauche, et de faire tout un chemin sur l'autoroute, au lieu de faire un petit tronçon d'autoroute, de sortir un peu de national, un petit tronçon d'autoroute, de sortir un petit tronçon de national. Auquel cas, à chaque fois, on prend le péage. Et donc, auquel cas, à chaque fois, on a des pertes. Et donc, cette solution, c'est une solution qui a l'avantage d'être très flexible, mais qui a encore quelques difficultés, quelques verrous technologiques et quelques freins réglementaires que j'évoquerai tout à l'heure. Donc voilà les différentes options qui sont utilisées, qui sont possibles pour renforcer le réseau. Quelques considérations d'ordre économique. Sur ce graphique, on voit sur des lignes aériennes, vous voyez en rouge le coût d'une liaison alternative. Donc le pointillé rouge, ça correspond à l'investissement. Le trait plein, ça correspond à l'investissement plus les pertes. Et sur une période donnée, sachant que vous avez en ordonnée les coûts et vous avez en abscisse la distance. Et donc pour une liaison d'à peu près 2 gigawatts, on estime qu'en termes de pertes, la distance jusqu'à laquelle c'est intéressant en termes de transport d'électricité vis-à-vis du coût, c'est de l'ordre de à peu près 500 km. À peu près 500 km, pardon. En revanche, si vous êtes en transport par câble, il y a une problématique de compensation. Et donc, avec l'isolant du câble qui joue un rôle de capacité, donc il y a sûrement plein de physiciens dans la salle qui sauront expliquer ça très bien et beaucoup mieux que moi, on a une problématique de puissance réactive, donc d'énergie qui est mobilisée dans le courant alternatif par les électrons, et qui font que plus la distance augmente, plus on a cette énergie qui est mobilisée avec la distance et qui fait que la puissance qu'on est réellement capable de transmettre est inférieure. Donc la puissance active qu'on peut transmettre est inférieure. Et la distance jusqu'à laquelle on peut aller par câble en courant alternatif, c'est de l'ordre de 200 à 250 km. Au-delà, bah, ça ne sert plus à rien d'avoir un câble parce qu'en fait, on ne sait plus transférer de l'énergie. Et donc, quand on doit transporter par câble de l'électricité, ce qui est le cas quand on doit traverser une mer, quand on doit traverser les Alpes, quand on doit traverser un parc naturel, en fait, on n'a pas 50 000 possibilités. Et là, l'équilibre en termes de coût entre l'investissement qui est de toute façon plus élevé quand on a du courant continu, parce que courant continu, il faut passer du courant alternatif au courant continu, donc il y a le coût de cette conversion et de ces convertisseurs. On est plutôt sur un ordre de grandeur de 80, entre 50 et 100 km d'équilibre économique. Voilà, pour vous donner cet ordre de grandeur. Et donc aujourd'hui, Comment est-ce que ça se traduit? Aujourd'hui, vous avez sur cette photo, je vais vous donner deux exemples d'utilisation qui sont les deux utilisations principales du courant continu. Cette illustration est une illustration dans laquelle vous pouvez imaginer que A, B et C, donc les éléments qui sont ici en jaune, A, B et C sont des pays, et vous avez ici les petits ventilateurs, ici sont des fermes éoliennes offshore. Ces fermes éoliennes offshore sont raccordées à chacun des pays par un lien continu haute tension. Et les pays sont raccordés les uns les autres avec des liens continus haute tension. Ça existe depuis déjà très longtemps. C'est le cas sur la liaison France-Angleterre. C'est déjà du courant continu haute tension. D'accord ? Ça a déjà plus de 40 ans. Donc cette technologie-là est une technologie qui existe et qui est déjà vieille. Et la façon dont ça fonctionne, dans une ferme éolienne, pour raccorder une ferme éolienne, on a un réseau de collecte, donc vous avez toutes vos éoliennes, on centralise avec du courant alternatif sur des petites distances, en 33 000 volts ou 66 000 volts, ou jusqu'à 130 000 volts aujourd'hui, on centralise cette électricité jusqu'à une station de conversion offshore, et sur cette station de conversion, on a la conversion en courant continu, et on va en courant continu, jusqu'au pays d'après, en liaison point à point. Aujourd'hui, les enjeux des transporteurs, les enjeux des réseaux sur ce type de sujet sont la standardisation des plateformes offshore, posées ou flottantes, parce qu'il y en a de plus en plus et qu'il y a des objectifs majeurs et massifs d'augmentation de l'éolien offshore, et puis l'augmentation des puissances. Pour transporter plus de puissance, il y a une augmentation de la tension des postes et des équipements, d'un standard qui était jusqu'à maintenant à 320 kV, qui est en train de monter vers les 500, 525 kV. Un exemple, c'est un exemple issu de Borwin 3. Borwin 3, vous voyez sur la photo, en vert ici, c'est ici par rapport à l'Allemagne qui est là, en mer du Nord, à peu près 130 km de la côte. Et donc c'est une plateforme offshore qui a été... Donc vous voyez avec la taille des grues, les grues sont des grues phénoménales. Enfin voilà, ça donne un ordre de grandeur de la taille d'une plateforme offshore. Donc celle-là, elle a été construite et mise en service par Siemens il y a 3 ans. Donc ça, c'est une ferme avec un peu moins d'un gigawatt de production. Et puis une collecte, un transport en courant continu, 320 kV sur 130 km. Donc voilà deux exemples. Et puis un troisième exemple, beaucoup plus proche de nous, l'interconnexion entre la Savoie et le Piémont. Et donc là, c'est pour augmenter les capacités de transport entre la France et l'Italie, un lien courant continu qui est entre Chambéry et Turin, et qui suit, pour transporter l'électricité, qui suit l'autoroute de la Maurienne, et donc qui est enterré en gros sous l'autoroute de la Maurienne, et donc dont la première moitié était mise en service en novembre 2022. Le second lien, parce que c'est deux liens parallèles de 600 MW, sera mis en service en 2023. Donc deux exemples de ce qui se passe aujourd'hui. Alors pourquoi est-ce que je vous montre ces exemples? Parce que l'exercice que je vais vous demander de maintenant, c'est d'essayer de vous projeter sur ce qui est en train de se produire. Et donc pour ça, je vais utiliser cette petite carte sur laquelle vous pouvez imaginer qu'on a par exemple au centre ici l'Europe continentale, dans laquelle on a plusieurs pays qui sont interconnectés ensemble, avec quelques liens en continu entre les pays, mais avec massivement un réseau qui est un réseau en alternatif. Avec, on pourrait imaginer que ça, c'est la Grande-Bretagne, au hasard, et au hasard que ça, c'est les pays nordiques. Voilà. Et donc, l'enjeu, on a quelques fermes éoliennes, on a quelques liens entre ces différents pays, et l'enjeu aujourd'hui, c'est la décarbonation du mix électrique, d'un côté, et de l'autre côté, l'intégration des marchés, pour la réduction, l'optimisation du prix de l'électricité, puis pour contribuer à la stabilité du réseau. Un réseau plus grand et un réseau plus interconnecté, c'est aussi un réseau qui est plus stable. Donc, pour répondre aux enjeux de décarbonation du mix électrique et d'intégration des marchés, on augmente les interconnexions et on connecte plus de renouvelables. Et on fait ça grâce à des liens point à point que j'évoquais tout à l'heure. Donc, on a le courant alternatif, on a un convertisseur alternatif continu, hop, que voilà, je vais y arriver. On a un lien, un câble, et puis on a un autre convertisseur qui repasse en alternatif. Donc ce sont tous les traits rouges que vous voyez sur cette image. On augmente les renouvelables, on augmente les interconnexions, Voilà ce que ça ressemble, voilà ce à quoi ça ressemble. Plus de liens rouges. Et là, la difficulté qu'on va avoir, c'est que quand on a ces liens, plus de liens rouges, plus d'interconnexions, ben, on va se rencontrer à avoir les difficultés que j'illustrais tout à l'heure en disant ben, on a des problèmes de congestion éventuelle au niveau des territoires à traverser, avec des problématiques de droit de passage ou d'acceptation sociale. Donc là, l'enjeu ou la problématique, ben, c'est de faire du renforcement terrestre et donc de continuer à augmenter le nombre de liens qui vont permettre de faire transiter cette électricité à travers les pays. Et donc, concrètement, ça donne ça, cette image que vous voyez en haut à droite. Cette image que vous voyez en gros à droite, quelqu'un sait ce que c'est ? Merci, c'est l'Allemagne. Ce sont les grands corridors de puissance en Allemagne. En Allemagne, ils ont énormément d'afflux d'électricité qui arrivent dans le nord, et donc ils sont obligés de créer des grands liens en courant continu qui traversent l'ensemble de l'Allemagne. Et donc demain, pour être capable de gérer ce transport d'électricité, eh bien, on rajoute des liens. Et quand on rajoute ces liens, ben, on a d'autres enjeux qui sont que, souvenez-vous de mon image tout à l'heure, de plusieurs tunnels qui se suivent les uns après les autres par rapport à mon réseau routier. Ben, en fait, notre enjeu, c'est de se dire que chaque fois qu'on a un rond, c'est un lien assez, et que là, ben, on aimerait bien être capable de connecter ces liens courant continu directement les uns avec les autres, sans passer par l'AC. Et ça, faire ça, c'est créer ce qu'on appelle des réseaux ou des systèmes multiterminaux. Des systèmes multiterminaux, ça veut dire qu'on va avoir non pas un convertisseur à chaque bout, mais plusieurs convertisseurs, et en fait, on va se balader sur le réseau à courant continu, et on va pouvoir en sortir quand on veut. Et ce type de réseau, c'est quelque chose qui va se développer pas à pas, et qui va se développer en utilisant probablement les actifs existants. Donc là, vous en voyez par exemple deux. Et puis avec certaines lignes qui peuvent potentiellement être converties de lignes alternatives vers des lignes à courant continu, parce qu'en convertissant une ligne de courant alternatif en courant continu, on va être capable de passer plus d'électricité, qui va permettre de construire, pour plein de raisons, je ne vais pas rentrer dans les raisons techniques, mais je vais juste vous en illustrer une. Quand vous êtes en réseau alternatif, ben, vous avez trois câbles, et quand vous êtes en réseau continu, vous n'en avez plus que deux. Un exemple. Et puis, il y a aussi des problématiques de densité de courant qui peuvent transiter à l'intérieur d'un seul et même conducteur, qui font qu'on va être capable d'augmenter significativement, y compris sur une même infrastructure, en passant de courant alternatif en courant continu, on va être capable d'augmenter significativement la puissance qu'on va être capable de transmettre. Donc, on va construire des nouvelles lignes, on va migrer des lignes de AC en DC, on va créer des points de raccordement, et puis on va au fur et à mesure étendre le corridor. Donc, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait imaginer demain. Par contre, il y a des vrais enjeux de planification du réseau, puis d'architecture au niveau du réseau. Parce que si vous vous projetez en vous disant ben, « je veux avoir un réseau que je vais étendre au fur et à mesure », ça veut dire que dès le départ, il faut que j'ai des règles de construction de ce réseau qui me permettent cette extension future progressive du réseau. Et je vais donc maintenant vous parler de façon un tout petit peu plus détaillée, vous faire toucher du doigt ces sujets de réseau à courant continu. Et je vais vous faire toucher ça du doigt en vous illustrant des cas qui sont issus d'une étude qui a été réalisée pour le compte de l'Europe, commandée par l'Europe, sur la base de cas réels. Et donc, ce cas-là, c'est un cas dans lequel, vous voyez, c'est une ferme éolienne qui est raccordée à un pays, et puis un lien entre ce même pays. Et donc là, la première idée toute simple, c'est de dire, ce que je fais, c'est que je raccorde la ferme éolienne directement sur le lien. Comme ça, j'optimise l'utilisation du lien, j'optimise l'utilisation de l'éolienne, et je me retrouve avec moins de convertisseurs. Donc je me retrouve avec une quantité de convertisseurs qui est inférieure. Et mon lien me sert à faire transférer l'électricité d'un côté ou de l'autre, soit en exportant l'électricité de l'éolienne, soit à droite, soit à gauche. Et donc je minimise le nombre d'électrons transportés et la distance qui est faite par les électrons, et donc les pertes, et je minimise aussi le coût des convertisseurs. On peut aller un peu plus loin, parce qu'au même endroit, en fait, il n'y en a pas un, mais il y en a deux des fermes éoliennes, donc on peut même imaginer qu'il y en a deux. Et donc là, je réduis encore plus le nombre de transformateurs. Ça, c'est un autre exemple, c'est l'exemple de ce qui se passe en ce moment en mer du Nord, dans lequel Ben, l'image d'en haut à gauche, c'est un beau plat de spaghettis. Il y a tellement de fermes, il y a tellement de liens. En fait, chacun doit y retrouver ses petits. Et l'idée, c'est de se dire, ben, on va essayer de procéder autrement et de procéder par ce qu'on appelle des hubs. Et donc ça, c'est l'exemple. C'est un exemple synthétisé du North Sea Wind Power Hub, donc, qui est un hub en mer du Nord, sur lequel l'idée est de réfléchir, de se dire, ben, comment est-ce qu'on est capable d'architecturer les différentes fermes les unes par rapport aux autres pour minimiser le nombre de câbles qui vont des fermes vers les pays et de transiter par ce hub quand on veut aller d'un pays à un pays. Avec un nombre très significatif en termes de nombre de kilomètres d'interconnecteurs et de câbles qui sont en moins. Et la photo, le type de photo à laquelle on aboutit, ben, c'est un genre de colonne vertébrale centralisée qui vient en support du réseau AC, un petit peu comme si je poursuis mon image de l'autoroute, vous avez votre réseau national, par-dessus votre réseau national, vous avez un réseau d'autoroute qui va permettre de décongestionner ou de faire des transports massifs d'électricité. Donc il ne va pas se substituer à lui, mais qui va arriver pour fluidifier, qui va arriver pour désengorger, qui va arriver pour accorder, pour être capable de réaliser le transport massif d'électricité. Maintenant, il y a un certain nombre d'enjeux et de contraintes à cette belle vision, enfin belle ou pas, je vous laisse chacun juger, mais en tout cas à cette vision. Et donc il y a quelques challenges techniques clés. Le premier challenge technique, c'est la coupure du courant continu. Alors si je vous le fais avec les mains, quand on a du courant alternatif, le courant alternatif, ben, il est positif, négatif, positif, négatif. Et donc chaque fois qu'il passe de positif à négatif, il passe par zéro. Ça veut dire que quand dans un disjoncteur vous allez écarter des contacts, puisque finalement un disjoncteur c'est ça, on écarte des contacts pour couper le courant. Quand vous allez écarter ces contacts, vous allez avoir un plasma qui va se créer, un éclair. En fait cet éclair ça ne va pas être un éclair permanent, il va scintiller et à chaque fois que ça passe par zéro, ça passe par zéro. Comment on coupe le courant en alternatif? On écarte, quand ça passe par zéro, on souffle très fort dessus. En soufflant dessus, on remplace les gaz chauds par des gaz qui sont un peu plus froids, qui sont un petit peu plus isolants. On continue à étendre, et donc là, on a une distance qui garantit l'isolement, et l'éclair qui s'est arrêté parce que le courant est passé par zéro, il ne se réallume pas. Donc en fait, on n'éteint pas, on empêche que ça se rallume. Quand je dis souffler très fort dessus, c'est un euphémisme, hein, puisqu'on souffle à une vitesse supersonique dessus, donc on souffle vraiment très très fort. Ben, en courant continu, quand vous allez écarter, vous allez vous retrouver avec un éclair, cet éclair, vous pouvez souffler dessus. Tout ce que vous voulez, on peut se mettre tous ensemble pour souffler dessus, ça ne va pas marcher. D'accord. Donc là, il y a des enjeux. Alors, des enjeux techniques auxquels un certain nombre de constructeurs réfléchissent, auxquels nous-mêmes, Superid, on réfléchit, qui sont d'injecter un contre-courant pour créer artificiellement un passage sur zéro, ou qui sont de limiter la montée de vitesse de montée du courant de défaut pour se donner le temps de faire osciller au fur et à mesure le courant jusqu'à ce que le courant passe par zéro. Enfin, voilà. Il y a un certain nombre de stratégies qui permettent d'interrompre. Donc, mais ces stratégies, aujourd'hui, donc le verrou technologique, il est en passe d'être résolu. Par contre, on a encore un verrou industriel, c'est qu'il n'y a pas encore, aujourd'hui, de solutions industrielles qui existent que vous pouvez aller acheter chez un fabricant. Donc là, on est dans une phase où on est en route vers l'industrialisation des solutions et des verrous technologiques qui ont été levés dans les 10 dernières années écoulées. Le deuxième, c'est l'interopérabilité des convertisseurs des fabricants différents. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Rappelez-vous, on disait tout à l'heure, j'ai un système donc avec deux convertisseurs qui permettent de transformer de l'électricité. Ben aujourd'hui, quand on a un fabricant, quand on a un opérateur de réseau qui achète un tel système, il achète un système clé en main. Et donc il achète un système en achetant le câble, les deux convertisseurs, le contrôle de l'ensemble, tout compris, à un fabricant. Ben si je veux rajouter un convertisseur, moi, opérateur de réseau, je n'ai pas du tout envie d'être bloqué avec ce même fabricant. Si j'ai deux liens séparés et que je veux juste les raccorder pour avoir quelque chose qui est plus long, ben, il faut que je puisse les raccorder. Donc il y a un vrai enjeu qui est de dire ben, finalement comment est-ce que je peux arriver à définir des règles d'interopérabilité, des langages communs en termes de convertisseurs, des couches de contrôle en disant ben, pour tout le monde, ces couches de contrôle elles seront au niveau des convertisseurs, celles-là elles seront au niveau de la sous-station, celles-là elles seront au niveau global du système. De définir les langages, l'échange, comment est-ce que je vais échanger entre ces différents convertisseurs. Voilà, donc un vrai enjeu d'interopérabilité, des enjeux d'appareillage en courant continu, et d'autant plus qu'on monte en tension, parce que vous imaginez un isolant. Un isolant, quand il est confronté, quand un isolant il est confronté à un courant alternatif, il est confronté à des électrons qui vont dans un sens et dans l'autre. Quand ce même isolant il est confronté à du courant continu, il est confronté à des isolants qui vont tout, des électrons qui vont toujours dans le même sens. Et donc ces électrons, au fur et à mesure, eh ben, ils peuvent s'amasser à la surface de l'isolant, voire ils peuvent rentrer un peu dans l'isolant. Et ça, on appelle ça des charges d'espace. Et ça, ça veut dire quoi concrètement ? Ben, ça veut dire que votre isolant, ses caractéristiques diélectriques, sa capacité d'isolant, eh ben, elle va changer au fur et à mesure du temps. Elle va changer parce qu'elle va absorber des charges d'espace. Et donc ça, ben, ça fait partie des choses qu'on a besoin d'étudier et qu'on a besoin de mieux connaître pour prévoir la durée de vie des équipements, les modes de défaillance des équipements pour les équipements en courant continu futur. Et puis, ben, le pilotage d'un réseau hybride AC-DC. Parce qu'en fait, il y a de l'AC, il y a du DC. Et l'enjeu, c'est de se dire, ben, si je veux stabiliser mon AC avec le DC, comment est-ce que je fais pour piloter l'ensemble ? Et après, il y a des enjeux qui sont plutôt organisationnels ou régulatoires. Ben, qui est responsable du système ? Parce que là, je suis bien gentil, je vous présente des trucs en vous disant, il va y avoir un réseau pan-européen, super, ok. Et c'est qui, en fait, l'opérateur de système ? Qui est le responsable que le système fonctionne ? Et puis, qui l'opère ? Voilà. Donc, des vrais enjeux qui sont aujourd'hui des enjeux au cœur de l'Europe. La Chine n'a pas ce problème. La Chine n'a pas ce problème, parce qu'en fait, les Chinois, ils ont leur système étatique qui définit qui fait de la R&D, qui dit, bon, ok, toi, tu vas gérer le système, toi, tu vas construire les convertisseurs, et puis voilà les plans, et puis toi, tu vas construire le disjoncteur. Voilà. Donc la Chine, c'est beaucoup plus facile qu'en Europe, où ben, on a plusieurs pays, et chaque pays étant souverain. Et aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des nombreux projets de recherche internationaux qui se penchent sur ces questions-là. J'ai choisi de vous en montrer quelques-uns sans rentrer dans le détail. Mais ça, ce sont tous des projets sur lesquels nous, Superhybrid Institute, on intervient. Et donc ça veut dire qu'il y en a aussi beaucoup d'autres, parce qu'il y en a bien sûr plein où on n'intervient pas. Mais ça vous donne un aperçu de ce qu'on rencontre. Donc, il y en a un qui s'appelle Ready for DC. Ready for DC, c'est des questions de réglementation et de collaboration autour des réseaux DC. Quand il y a de la propriété intellectuelle de l'un ou de l'autre, et bien comment est-ce qu'on se l'échange ? Comment est-ce qu'on fait pour collaborer en continuant à respecter des problématiques réglementaires, des problématiques de droit de la concurrence ? Et donc, quelles sont les façons qu'on peut avoir de collaborer d'un point de vue réglementaire ? Interopéra, le plus gros des projets européens attribués dans le cadre d'Horizon Europe, un projet de 70 millions d'euros, dont 50 millions de subventions, qui a démarré il y a deux mois, qui est coordonné par Superhybrid Institute. Donc l'enjeu sur ce projet-là, c'est l'interopérabilité entre les différents convertisseurs au sein d'un système à courant continu et le contrôle de ce système. HVDC Wise se pose la question de la fiabilité et de la résilience d'un réseau hybride dans lequel il y a du AC et du DC, comment je le contrôle et comment est-ce que l'un contribue à la stabilité de l'autre et réciproquement. Network DC, ça c'est pas un projet européen ce projet-là, c'est un projet anglais, puisque les Anglais sont plus dans l'Europe, mais ils ont exactement les mêmes questions, et ils se posent les mêmes problèmes avec autant d'électricité offshore à intégrer. Et donc Network DC se pose la question de la protection des réseaux DC et des systèmes de contrôle des disjoncteurs à courant continu. Offshore Energy Hub, ça résonne un peu avec ce que je vous disais tout à l'heure en termes d'Energy Hub. Donc ça, c'est un projet européen qui est piloté par le Danemark, qui a des problématiques de l'île de Bornholm, de son île artificielle également, enfin un certain nombre de projets, de la même façon qu'il y avait North Sea Wind Power Hub. Et puis, un autre exemple, NewGen, c'est sur la nouvelle génération d'isolants par rapport à ces problématiques que j'évoquais en termes de charge d'espace isolant. Voilà, donc tout ça pour vous dire que ces enjeux et ces technologies sont des technologies... C'est pas du rêve. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui déjà dans la recherche qui est financée et sur laquelle travaillent les industriels dans le cadre de projets européens. Et puis, bien sûr, chacun a ses propres projets financés. Et quelques images en projection pour visuellement se représenter les grandes photos que je vous montrais tout à l'heure. Ben là, on a une carte de la mer du Nord. Je ne sais pas si on voit bien le plat de spaghetti. Donc les différentes couleurs correspondent par tranche de 5 ans à ce qui va se passer entre maintenant et 2050. Et si on passe dans un concept de hub, voilà les hubs et voilà les différentes couleurs. Donc on voit que le plat de spaghetti, il est quand même bien plus ordonné. En voilà une autre représentation sur le North Sea Wind Power Hub qui donne des ordres de grandeur de la façon dont ça se passe si chacun gère ses propres fermes ou de la façon dont ça se passe si les fermes elles sont gérées en commun. Et pour illustrer ça, je vais même vous montrer directement cette photo-là. Donc l'image de gauche, c'est une image que je suis allé chercher sur le site internet de North Sea Wind Power Hub. North Sea Wind Power Hub, donc il y a un consortium de l'opérateur allemand et hollandais TenneT, de l'opérateur danois Energinet et de l'opérateur de gaz Gasunie. Et donc vous voyez à gauche le Royaume-Uni, la Belgique, la Hollande, l'Allemagne, le Danemark et puis la Norvège au nord. Avec en bleu, il y a un petit trait bleu. Donc le petit trait bleu, c'est un lien qui est un lien hydrogène parce qu'il y a des enjeux de, il y a aussi des questions qui se posent en termes de l'efficacité de produire de l'hydrogène en mer ou de produire de l'hydrogène à terre avec de l'électricité qu'on aurait transférée depuis la mer. Donc un gazoduc d'hydrogène. Mais surtout en jaune, ce qu'ils prévoient aujourd'hui à horizon 2030 ou ce qu'ils annoncent sur leur site internet comme prévoyant à l'horizon 2030. Donc vous voyez que le concept de hub, il est déjà en marche. Et en blanc, c'est ce qu'ils prévoient en termes de hub en 2050. Et ça, nous, on sait que c'est une réalité parce qu'on fait des études de réseau pour eux aujourd'hui. Et pour donner un autre exemple, l'image de droite, donc ce sont des extraits que j'ai retirés d'une spécification d'un appel à manifestation d'intérêt de collaboration pour les projets Northwest Hub et Heide Hub, qui sont deux projets pour les Allemands. Pour essayer de rationaliser un peu les problématiques qu'ils ont entre les connexions avec les grands corridors de puissance et puis les problématiques de fermes éoliennes dans ces deux coins-là, de Heide et de Northwest. Voilà. Donc ces enjeux et ces problématiques sont des problématiques concrètes à date d'aujourd'hui. Donc voilà le sujet multi-terminaux macro. Maintenant, je vais essayer de focaliser, et ça va être un petit peu plus rapide, sur les enjeux et le lien avec le micro, avec deux, trois autres considérations. La première considération, vous verrez, c'est avec les mains, hein, donc rassurez-vous, il n'y a pas beaucoup de... Enfin, je ne sais pas si ça vous rassure ou si ça vous décevra, mais il n'y a pas énormément de physique très concrète là-dedans. Ou en tout cas pas beaucoup d'équations à part ici l'énergie cinétique que vous voyez affichée. La stabilité du réseau AC, elle repose donc sur l'inertie des machines tournantes. Ça veut dire que les machines tournantes qui produisent de l'électricité, bah, en fait, elles fonctionnent toutes à peu près pareil. Hein. On a des alternateurs. Ces alternateurs, ils sont mus par une force qui peut être de la vapeur, qu'on obtient par combustion de gaz, par combustion de charbon, par fusion ou nucléaire, ou fission nucléaire plutôt. Et donc qui produit de l'électricité parce qu'on a une machine qui tourne à 50 Hz. Et en fait, toutes ces machines, elles sont synchronisées, ça fait une inertie du réseau. La constante de temps typique, c'est de l'ordre de 5 secondes. Et alors, qu'est-ce qui va se passer quand dans le réseau, il y a une machine tournante qui marche plus ou qu'il y a d'un coup plus de consommateurs. Ben, s'il y a plus de consommateurs, le réseau il va s'équilibrer tout seul et ces machines tournantes elles vont délivrer l'électricité qu'on leur demande. Comme elles délivrent l'électricité qu'on leur demande, elles fournissent plus d'énergie électrique et pour ça, ben, leur énergie cinétique diminue parce qu'il y a plus d'énergie cinétique qui est convertie en énergie électrique. Et donc l'opérateur de réseau, il fait quoi ? Ben, lui, il regarde la fréquence, il voit que la fréquence diminue. Il appelle son copain EDF et lui dit « S'il te plaît, lance-moi une power plant hydraulique. » Voilà, par exemple. Et c'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Sauf que demain, on a du solaire. Le solaire, on va faire simple, il y a un photon qui tombe sur un panneau photovoltaïque, ça génère un électron. Il n'y a pas beaucoup d'inertie. Vous me direz, il y a des éoliennes. Ouais, il y a des éoliennes. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens parmi vous qui ont vu des éoliennes tourner à 50 tours par seconde ? C'est plus des éoliennes, c'est des ventilateurs. Ok. Donc les éoliennes, en fait, elles ont une vitesse qui est une vitesse en général variable et qui est une vitesse qui va dépendre parfois du vent, enfin qui va être le plus optimisé possible par rapport à la génération de l'énergie qu'elles ont à fournir. Et pour convertir en 50 Hz l'énergie des éoliennes et les accrocher au réseau, il va falloir passer par du courant continu grâce à un convertisseur, parce que la seule façon de changer la fréquence, c'est de passer par le courant continu pour ensuite remettre une autre fréquence. Et donc, ça veut dire que ce qui va générer le 50 Hz, c'est un ordinateur. Un ordinateur, en fait, c'est un électronique de puissance. C'est le contrôleur du convertisseur de puissance. Ben, lui, c'est pareil. Hein. Lui, à moins d'avoir une inertie synthétique programmée, il n'a pas d'inertie, en fait. Donc, on a un vrai enjeu, c'est qu'il y a plus de renouvelables, et plus il y a de renouvelables, et moins il y a d'inertie. Et moins il y a d'inertie, et moins il y a de temps pour gérer les défauts sur le réseau. Moins il y a de temps pour générer les défauts sur le réseau, vous vous souvenez ce qu'on avait dit tout à l'heure, l'électricité dans le réseau AC, elle se débrouille toute seule. Donc s'il y a moins de temps, ça veut dire qu'il y a plus de déséquilibre. S'il y a plus de déséquilibre, il va y avoir des transferts plus rapides d'électricité. Des transferts plus rapides d'électricité, ça veut dire qu'il va y avoir plus de déphasage, de différence d'angle entre différents endroits. Et donc ça veut dire qu'on va potentiellement séparer les réseaux, parce que quand on a trop de différents angles, le réseau il n'est plus assez stable. Donc, augmenter. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, augmenter le renouvelable, il y a des problématiques qui sont les problématiques de transport, mais il y a aussi des problématiques qui sont des problématiques de stabilité. Pareil, quand on regarde le réseau de distribution, le réseau de distribution, lui, il va avoir de plus en plus de générations distribuées. Il va avoir aussi. Donc, il aura de la génération. Et avec sa génération, il va aussi avoir du stockage. Soit du stockage parce qu'il y a des personnes qui vont vouloir, pour leur propre consommation, décaler et puis générer leur propre stockage de l'électricité qu'ils vont produire eux-mêmes parce que ça leur permet d'être moins dépendants des pics d'électricité et de l'achat de l'électricité aux heures de pointe. Ou tout simplement parce que dans les véhicules, il y a des batteries et qu'il y a le développement du véhicule to grid, donc c'est utiliser les batteries des véhicules, quand les véhicules fonctionnent, comme une réserve d'électricité. Ça, ce n'est pas branché directement sur le réseau de transport. C'est branché sur le réseau de distribution. Et puis après, il y a tous les moyens de flexibilité qui vont être liés. Vous avez tous vu EcoWatt. Hein. Tous les Français ont entendu parler d'EcoWatt, a priori. EcoWatt, c'est demander aux gens d'essayer de réduire leur consommation avec des actes de sobriété. La sobriété, ça va jusqu'à la flexibilité au sens de l'effacement. Et on peut demander aux gens de s'effacer. Et ou à des problématiques de gestion d'un service rendu au réseau, comme j'ai des clients qui s'effacent, qu'on rémunère contre un effacement. Et donc, où je veux en venir ? Je veux en venir sur le fait que le réseau de demain, il va nécessairement avoir un certain nombre de coopérations et de mécanismes de coopération plus importants entre les différents acteurs, et en particulier les réseaux de transport et de distribution. Vous voyez sur ce schéma-là, en vert, des zones AC, des zones en alternatif, indépendantes, qui sont connectées par des liens HVDC, haute tension courant continu. Là, on a même mis un réseau, donc qui, lui, va permettre un équilibrage rapide et contrôlé des réserves d'énergie entre la gauche et la droite, parce que lui, il n'a pas de problème de déphasage, c'est du courant continu, il peut transporter de l'électricité très rapidement. Et en plus, on gère les flux avec les convertisseurs intrinsèquement. L'inertie naturelle de ces poches synchronisées, naturelle ou synthétique d'ailleurs, c'est elle qui permet à ces réseaux verts d'être synchrones. Et puis le système de gestion de l'énergie, il gère les liens entre les différents systèmes pour que ça soit à peu près équilibré. Et il y a du stockage qui est à l'intérieur de ce qu'on a appelé des microgrids. Donc un microgrid, ça peut être un réseau de distribution sur lequel vous avez un petit peu de génération et un petit peu de consommation avec de l'habitat, des quelques petites usines ou du stockage. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a une perturbation du réseau ? Perturbation du réseau, ici, la perturbation, c'est une machine tournante qui s'arrête parce qu'on a une panne dans une centrale ou qu'on a une centrale qui s'arrête pour une raison X, Y, Z. Il y a une contribution rapide des réseaux voisins, puisque vous le voyez sur le réseau de gauche, ce que j'évoquais tout à l'heure. Comment ça marche, mon machin ? Voilà. Vous le voyez ici, la fréquence qui était à 50 Hz, elle est plus basse. Donc, en fait, on voit qu'il y a un problème, puisqu'il y a une machine en moins. Et donc, il y a une contribution des réseaux voisins avec le HVDC. Chaque réseau contribue avec ses machines tournantes, bien sûr. Et puis, le stockage qui est dans les réseaux de distribution, il peut éventuellement remonter jusqu'au réseau de transport pour contribuer à stabiliser globalement le réseau de transport avec des contrôleurs intelligents qui sont là pour essayer de stabiliser l'ensemble du système. Ça veut dire qu'on a une coopération qui est vraiment nécessaire entre le transport et la distribution. Et chacun contribue à stabiliser l'ensemble. On peut imaginer que dans le système que j'ai affiché tout à l'heure, on a temporairement un lien courant continu ici qui n'est pas disponible. S'il n'est pas disponible, ben on peut avoir une séparation des réseaux, ou en tout cas un réseau sur lequel la fréquence monte, un réseau sur lequel la fréquence descend. Et donc là, ça va être les batteries, en l'occurrence, qui vont permettre, dans un sens ou dans l'autre, le stockage qui va permettre éventuellement, dans un sens ou dans l'autre, d'être capable d'absorber de l'électricité quand il y en a trop qui est produite, ou de restituer l'électricité pour contribuer, ad minima temporairement, à l'équilibre du réseau. Voilà. Et c'est ça l'enjeu que je voulais vous faire toucher du doigt aujourd'hui, c'est bien celui-ci, c'est que on a une problématique avec l'électricité renouvelable d'une augmentation très significative des échanges qu'on va avoir sur le réseau, que pour être capable de répondre à ces échanges, ben, les corridors de puissance, notamment en courant continu, ben, ça sera demain, et c'est déjà en partie des colonnes vertébrales qui permettront de soutenir le réseau AC, un peu comme les autoroutes par rapport à un réseau national, que leur développement, ben, il est nécessaire pour intégrer les sources renouvelables d'électricité de façon massive. Je voulais pas mentionner, je vais peut-être vous le dire maintenant, l'ordre de grandeur. Est-ce que quelqu'un sait à peu près combien l'Europe produit d'électricité offshore aujourd'hui? Ok. L'ordre de grandeur aujourd'hui, c'est à peu près 20 gigawatts, et il y a à peu près pareil en Angleterre, un petit peu moins. Ok. En Europe, 2030, donc c'est demain, hein, à l'échelle de développement de fermes éoliennes offshore, c'est demain, 2030. 2030, c'est 43 gigawatts. 2050, c'est entre 300 et 450 gigawatts. D'accord? Donc c'est extrêmement significatif. Et entre 300 et 450 gigawatts, il y a des associations comme offshore, comme Wind Europe, par exemple, qui disent, sans réseau à courant continu, on ne peut pas faire plus de 200. Elles prêchent peut-être un peu pour leur paroisse, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que sans courant continu, le plat de spaghetti, c'est plus un plat de spaghetti, quoi. C'est... Ce qui pose d'ailleurs d'autres questions en termes d'utilisation de cuivre, en termes de minimisation des composants, enfin voilà, d'impact global de l'ensemble de ces déploiements de réseau, qui nous demande lui aussi, pour des raisons de coûts qui vont être de plus en plus prégnants et de préservation des ressources, d'avoir un système qui soit le plus optimisé possible. Donc un développement qui est absolument nécessaire au développement, à la réponse des ambitions qu'il y a aujourd'hui en Europe, et ailleurs qu'en Europe d'ailleurs, hein, mais je prends cet exemple de l'Europe, avec un rôle clé pour transporter l'électricité, pour partager les réserves. Parce que vous imaginez que si dans chacune des poches vertes, eh ben, on ne peut pas compter sur le voisin pour partager les réserves, eh ben, ça veut dire qu'il faut qu'on construise dans chaque poche verte des réserves considérables pour être capable de rester stable. Ou alors qu'on accepte d'avoir plein de coupures d'électricité. Voilà, c'est un choix. Et avec un vrai enjeu et une vraie compréhension qui est de dire que ben, y a des choses qui se passent au niveau du réseau de transport, il y a des choses qui se passent au niveau du réseau de distribution, et qu'en fait, pour atteindre les objectifs, on a besoin de la génération distribuée comme on a besoin de la génération centralisée. Et en fait, on ne peut pas opposer les deux. Parce que les deux, demain, ils doivent coopérer et collaborer ensemble pour que le réseau de transport et de distribution, pour assurer la sécurité d'approvisionnement en électricité. Voilà les quelques messages que je voulais vous faire passer. Je vous propose qu'on ait un jeu de questions-réponses. Si vous avez des questions éventuelles, je vous en prie.